Voix Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. On commence par le sport. C'est aujourd'hui l'apothéose de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte. La finale de cette première CAN à 24 équipes a lieu ce soir à 19h temps universel au Stade international du Caire. L'Algérie vise un deuxième sacre continental depuis près de 30 ans. Le Sénégal, lui, rêve d'offrir ce soir son premier trophée continental au pays de la Teranga et jouera sa deuxième finale de la CAN 17 ans après. Les Lions de la Teranga n'ont essuyé qu'une seule défaite dans cette CAN et c'était face au même Fennec, vainqueur 1-0 en phase de poule. Pas de quoi faire peur au coach sénégalais et ses poulains. On écoute l'entraîneur Aliou Cissé.
C'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre talk history. Nous sommes en finale déterminés à la gagner, tout simplement.
L'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, cette finale a aussi un goût particulier pour les deux sélectionneurs, Djamel Belmadi de l'Algérie et Aliou Cissé, tous deux nés en 1976. À un jour de cas, Belmadi à Champigny et Cissé au Sénégal, avant de rallier la banlieue parisienne à l'âge de 9 ans. Plus tard, Belmadi est parti se former au Paris Saint-Germain. Si c'est lui, il est allé à Lille. Cette opposition continue, cette fois-ci en terre africaine, en tant que coach. Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.
C'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. C'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver, nous deux, à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc, c'est vrai. Ça a un goût particulier.
Djamel Belmadi, l'entraîneur des Fennec d'Algérie. Rendez-vous donc ce soir à 19h, temps universel, au Stade international du Caire. Vingt militants du principal parti d'opposition au Cameroun arrêtés en juin au cours de manifestations ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a publié une liste de 20 de ces militants libérés, précisant qu'ils étaient néanmoins toujours poursuivis par la justice pour attroupement et manifestations illégales et comparaissent libres. Ils avaient été arrêtés avec 36 autres militants du MRC et leur vice-président Mamadou Mota, les 1er et 8 juin à Yaoundé, lors de manifestations non autorisées par le pouvoir. Ils étaient descendus dans les rues pour exiger la libération de leur président Maurice Kamto et de plusieurs centaines de militants écroués depuis la fin du mois de janvier. En Afrique du Sud, l'armée a été déployée hier dans plusieurs quartiers sensibles du Cap, la deuxième ville du pays, pour aider la police à rétablir l'ordre après une vague de meurtres et de violences attribuées à des gangs de criminels. Le point avec Abdourahmane Dia.
Plusieurs véhicules blindés ont fait hier leur entrée dans le township de Menenberg, dans l'est de la mégapole. Des soldats casqués et équipés de fusils d'assaut ont commencé à patrouiller à pied. Le chef d'état-major des forces armées, le général Soly Chok, avait annoncé l'entrée en scène pour 3 mois de l'équivalent d'un bataillon dans les townships des Cape Flats. Lors de la publication des statistiques annuelles de la criminalité, le ministre de la police, Becky Kelley, avait comparé certains quartiers à des zones de guerre. Les soldats sont déployés pour aider la police à rétablir l'ordre et à maintenir la paix dans des communautés qui sont terrorisées par les gangs, a déclaré hier le président Cyril Ramaphosa devant le Parlement. Nous devons sauver des vies, a ajouté le chef de l'État. Avec 57 meurtres par jour, soit plus de 20 000 par an, l'Afrique du Sud figure aux premières places du palmarès des pays les plus violents de la planète.
Et c'est fait. L'Organisation mondiale de la santé vient d'élever la fièvre hémorragique Ebola en RDC au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Sur le terrain, la mobilisation contre Ebola se poursuit. Le ministre de la Santé de la RDC a détaillé son exigence de transparence envers les ONG et partenaires impliqués dans la riposte anti-Ebola, notamment l'UNICEF, MSF et Oxfam. Eric Manirakiza a joint en RDC le directeur adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences, le docteur Sossé Ibrahima Fall.
La déclaration du genre de centre d'études de portée internationale est basée sur l'évaluation du risque et la possibilité de propagation de l'épidémie en dehors de la République démocratique du Congo. Donc, cette déclaration s'accompagne de recommandations en termes d'action à mener au niveau du Congo, mais aussi au niveau des pays voisins, en termes de prévention, de capacité de gestion, mais aussi de partage d'informations, y compris l'information sur le risque. Les actions de terrain continuent, les priorités n'ont pas changé, c'est toujours donc d'interrompre la transmission par une investigation, une détection précoce, une capacité à isoler, à traiter les cas, à prévenir la transmission de l'infection aussi bien dans la communauté que dans les formations sanitaires.
Vous avez personnellement la charge de lutter contre Ebola. Quels sont les défis sur votre chemin?
Le défi numéro un a été le défi sécuritaire. Nous sommes dans une zone qui est le lieu d'un conflit qui a duré plusieurs dizaines d'années, où il y a plusieurs groupes armés, où l'accès à certaines localités est parfois très difficile du fait de la sécurité. Nous sommes aussi dans une zone très vaste où les populations se déplacent. Donc, très souvent, il y a beaucoup d'activités économiques. Et l'autre défi aussi, c'est un système de santé qui n'est pas fort. Il y a beaucoup de faiblesses donc, qui font que la transmission se passe même dans les formations sanitaires. Donc, nous allons continuer à mettre l'accent sur le renforcement des capacités aussi bien pour la communauté que pour les travailleurs de santé pour pouvoir prévenir les transmissions secondaires, détecter rapidement les cas et pouvoir les isoler, les traiter. Continuer la stratégie de vaccination aussi autour des cas pour rompre la transmission.
Plus de 1700 morts l'été dernier, c'est quand même trop.
Même un mort, c'est trop. Donc, notre approche, c'est de pouvoir sauver le maximum de vies possible. Vous parlez de 1600 morts, mais aujourd'hui, il y a plus de morts même pour la rougeole, une maladie qu'on peut prévenir totalement ici au Congo et dans d'autres pays, plus de morts pour le choléra. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans la fatalité. Nous faisons tout pour prévenir ces décès, même un décès est un décès de plus.
Docteur Sossé Ibrahima Fall, directeur adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences. Le Parlement ivoirien a adopté la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante, la CEI, chargée de la présidentielle de 2020 malgré le rejet du texte par l'opposition. Le projet de loi établissant la nouvelle CEI a été adopté à la majorité par 24 députés contre 16 sur les 42 membres de la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale ivoirienne en attendant le vote en plénière. Trois Marocains ont été condamnés à mort jeudi par un tribunal de Salé, près de la capitale Rabat, pour le meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves dans l'Atlas. La Danoise Louisa Vesterager, 24 ans, et la Norvégienne Maren Urland, 28 ans, ont été tués dans leur tente en décembre dernier, près de la localité marocaine d'Imlil, destination de nombreux randonneurs. Dans une vidéo, quelques jours avant le meurtre des Scandinaves, ces hommes avaient prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique. À Washington, il est 7h08, temps universel.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et oui, en temps universel, il est 11h08. Autant pour moi, le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il désapprouvait les slogans scandés la veille lors de son meeting de campagne où la foule avait crié « Renvoyez-la » à l'évocation d'Ilhan Omar, une fille de réfugiés somaliens élue au Congrès en 2018. « Je suis convaincu que c'est un fasciste », a déclaré pour sa part la parlementaire démocrate. Les forces armées iraniennes ont assuré aujourd'hui que tous leurs drones partis en mission la veille étaient bien rentrés à leur base, démentant les propos du président américain Donald Trump, selon lesquels un navire américain aurait détruit un appareil sans pilote iranien. Monsieur Trump avait déclaré jeudi que l'USS Boxer avait abattu un drone iranien qui s'était approché dangereusement après avoir ignoré de multiples appels à s'éloigner du vaisseau. Et selon le président américain, le drone iranien se serait approché à moins de 1000 mètres du bâtiment, lequel aurait alors entrepris une action défensive. Au moins 8 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'explosion d'une bombe à proximité de l'entrée d'une université de Kaboul en Afghanistan ce matin, alors que les étudiants attendaient pour venir passer un examen. Cette explosion s'inscrit dans une vague continue de violence dans tout le pays, où des civils sont tués quasiment chaque jour dans un conflit qui est maintenant dans sa 18e année. Les talibans, pour lesquels Kaboul est une cible privilégiée, ont nié être à l'origine de cette explosion. Et puis, les délégations du gouvernement de Nicolas Maduro et de l'opposition vénézuélienne ont annoncé jeudi qu'elles progressaient dans leur pourparlers à la Barbade visant à résoudre la crise politique au Venezuela. Jean-Roger Billon à ce micro, vous retrouverez dans 50 minutes Henri Francis pour un nouveau journal. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.